Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue en ce mercredi 3 mars, 15e jour de carême. Qu'est-ce qui fait notre volonté? Qu'est-ce qui nous rend pleinement libres et en particulier libres face à l'épreuve? Ce sont les questions que nous posera notre méditation d'aujourd'hui. Comme hier, nous sommes dans une partie un peu technique de silence et gâteau de miel. N'hésitez donc pas, si vous en avez besoin, à arrêter la lecture et à revenir en arrière. Mais d'abord, nous entrons dans cette méditation avec le psaume 31. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Et nous entendons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus, avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Louange à toi, ô Christ. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 2, Silence et gâteau de miel, cinquième partie. Nous avons entendu hier la distinction que font certains théologiens orthodoxes entre individus et personnes. Nous ne pouvons faire sens de cette distinction, telle que la présente Vladimir Lossky et ses disciples, que si nous pensons à cet être humain suprêmement libre et suprêmement unique, qu'est Jésus. Dans l'histoire de la théologie, il y a eu un certain nombre de débats autour du caractère et de l'étendue du libre arbitre de Jésus en tant qu'être humain. Par exemple, sous la pression énorme qu'il a subie à Gethsémané, aurait-il pu décider de s'enfuir, de faire autre chose ? Si la réponse est non, comment alors pouvons-nous dire de lui qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, selon la formule de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Et si la réponse est oui, alors est-ce que cela ne contredit pas notre foi dans le fait que chacun des moments qu'il a vécu dans notre nature humaine était aussi uni à Dieu de manière pleine et sans équivoque? Peu après l'époque des premiers moines et moniales du désert, l'Église d'Orient s'est violemment divisée pour savoir s'il fallait dire de Jésus qu'il avait une ou deux volontés. En Jésus, est-ce qu'il y avait la coexistence d'une volonté divine et d'une volonté humaine, ou y avait-il une seule volonté qui était en quelque sorte le résultat des deux? Les partisans de cette dernière option postulaient que s'il y avait une seule personne en Jésus, comme le disaient les formules officielles, alors il devait y avoir une seule volonté. Mais, au terme d'une longue et vive querelle, l'Église a décidé qu'il fallait parler de deux volontés, parce qu'il y a deux natures en Christ, la nature divine et la nature humaine. Pour nous, tout cela sonne terriblement abstrait. Mais en fait, c'est d'une grande pertinence pour ce dont à quoi nous réfléchissons. Avoir une volonté, pour les théologiens orthodoxes de cette époque, cela signifiait avoir un ensemble de dispositions en accord avec sa nature. Si nous sommes telle sorte d'êtres humains, il est probable que nous allons désirer telle sorte de choses. Et faire un choix parmi les choses que nous allons probablement désirer, à ce titre, c'est une activité naturelle. Ainsi, pour Jésus au jardin de Gethsémané, la volonté humaine est agissante, et sa volonté humaine, comme toute autre volonté humaine, désire survivre et se révolte profondément contre la menace de la mort. Elle peut envisager cette menace et ce qu'il faudrait faire pour y échapper. Dans un sens abstrait et formel, elle peut choisir de survivre, parce que c'est ce que fait la volonté humaine. Mais la volonté humaine ne résume pas la personne humaine, et tout cela reste très abstrait quand on le considère sans prendre en compte la personne qui active la volonté. Les volontés qui flottent dans les airs pour prendre des décisions, cela n'existe pas. Quoi qu'il y ait quelques écrivains modernes, des romanciers ou psychologues, qui ont l'air de penser que ce serait formidable. Ce sont des personnes qui décident, et quand une personne vit dans une parfaite cohérence avec elle-même, quand son identité est totalement absorbée dans sa vocation à vivre dans une intimité sans réserve avec Dieu le Père, il n'y a, comme nous le disons, pas le choix. Pas parce que des circonstances externes limiteraient ce qui est possible, mais parce que la personne a une réalité si solide, une identité tellement unique et tellement fiable, que ce qu'elle fait sera toujours cohérent avec le fait d'être qui elle est. Et dans le cas de Jésus, cela signifie faire ce que Dieu demande pour le salut du monde. Il peut y avoir de l'agitation dans les sentiments, une vive conscience du prix à payer, un mouvement de recul face à ce qui est à venir, mais il n'y a en dernier recours aucune incertitude. Et cela ne signifie pas que Jésus serait d'une manière ou d'une autre préservé de l'horreur de la décision humaine face au risque d'une terrible souffrance, mais simplement que le fait qu'il soit qui il est règle la question une fois pour toutes. Il est totalement libre d'être lui-même. En fait, il est inimaginable qu'il refuse sa vocation. Ce n'est possible que dans l'abstraction, comme n'importe quel humain peut, dans l'abstraction, dire oui ou non à n'importe quoi. Mais cela ne diminue en rien sa liberté. Au contraire, cela fonde cette liberté qui est la plus importante de toutes. Nous prions. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec l'amour de tout mon cœur, parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.